Lorsqu'il préparait en 1957 le tournage de son dernier documentaire, André Masson et les quatre éléments, Jean Grémillon a noté dans un petit cahier qui est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale des idées qui lui venaient ou des citations d'auteurs. Et il a notamment relevé cette phrase de Mircea Eliade, « L'homme ne peut vivre que dans un espace sacré ». Qu'en est-il de son œuvre à cet égard? Quel rapport entretient-elle avec le sacré, le religieux, si elle en entretient un? Le réaliste Grémillon, certes rempli de curiosité pour les sciences occultes et l'ésotérisme, peut-il être aussi un homme religieux? Il nous semble que son œuvre est empreinte d'une telle dimension, le plus souvent discrète, mais qui éclate parfois et qui semble se libérer dans son dernier long métrage, L'amour d'une femme. Encore faut-il s'entendre sur ce qu'on entend par sacré ou par religieux. Comme l'écrit Mircea Eliade dans son Histoire des religions, il est regrettable que nous ne disposions pas d'un terme plus précis que religion pour exprimer l'expérience du sacré. Religion peut encore être un terme utile pourvu qu'on se rappelle qu'il n'implique pas nécessairement une croyance en Dieu, en des dieux ou en des esprits, mais se réfère à l'expérience du sacré et par conséquent est liée aux idées d'être, de signification et de vérité. La conscience d'un monde réel et significatif est intimement liée à la découverte du sacré. Par l'expérience du sacré, l'esprit humain a saisi la différence entre ce qui se révèle comme étant réel, puissant, riche et significatif, et ce qui est dépourvu de ces qualités, c'est-à-dire le flux chaotique et dangereux des choses, leurs apparitions et disparitions fortuites et vides de sens. Disons aussi, avant d'aller plus loin, que dans son petit cahier déjà cité, Grémillon écrit « À vouloir définir trop, les portes se ferment aux rêves et aux songes ». C'est en ayant à l'esprit cette phrase qu'il faut aborder le sujet. Des rapports de Grémillon à la religion, on sait assez peu de choses, car il ne s'est guère exprimé publiquement sur la question. Et pourtant, on en sait davantage que pour bien d'autres cinéastes, car singulièrement, les témoignages de ses amis évoquent spontanément la question. Il en est ainsi de Jacques Brioin, de Roger Bezeau, dont les beaux textes ont été reproduits dans la thèse d'Henri Hagel, comme dans le beau livre de Philippe Roger consacré à Remorque. Jacques Brioin, qui était collaborateur du cinéaste sur plusieurs films, écrit « Si j'avais à caractériser en un seul mot son tempérament, je dirais qu'il était par-dessus tout un hérétique. D'éducation catholique et même bigote, l'exigence de sa foi l'avait conduit encore jeune au protestantisme. La foi chez les protestants, me disait-il, est beaucoup plus vive et beaucoup plus active, plus profonde que chez les catholiques. Je l'ai connu ensuite détaché de toute religion. Je ne pense pas qu'il ait été véritablement athée. Je crois que sans se l'avouer, peut-être il était plus contre Dieu que sans Dieu. Tout ceci d'ailleurs mêlé à une profonde admiration pour la liturgie catholique au sujet de laquelle il m'a beaucoup appris. » Et de son côté, Roger Bezeau évoque en ces termes le cinéaste. Il était de famille catholique, et bien que le missel romain figurât dans sa bibliothèque, qu'il ait lu et compris, je crois, car il avait une intuition aiguë, la nuit obscure de Saint Jean de la Croix, qui est une des œuvres mystiques les plus difficiles, je suis persuadé qu'il n'avait plus la foi. Il était inquiet de l'avenir, curieux des choses cachées, toujours à la recherche de ce qu'il peut y avoir derrière le décor de la Maya. Il comparait le monde manifesté à un décor de théâtre truqué, avec des perspectives trompeuses, de fausses portes et de fenêtres factices, dans lequel cependant devait exister une vraie porte ouvrant sur la réalité immanente. Il cherchait cette porte qu'il aurait voulu fracturer. Henri Hagel indique aussi qu'au moment de sa mort, Grémillon souhaita être enterré civilement, tout en acceptant par égard pour sa sœur qu'une prière soit dite dans la chambre mortuaire. Il avait donc baigné dans une culture chrétienne dont il s'était éloigné, tout en restant passionné par les rites, les liturgies. Dans son cinéma, la question du sacré et du religieux se pose peut-être d'abord par la question du destin. Tous les personnages de Grémillon sont marqués par le destin, par quelque chose qui s'abat sur eux sans qu'ils l'aient voulu, qui les entraîne vers la tragédie, vers le dépassement de soi, vers le sacrifice. Maldonne, le roulier, mène une vie de bohème conforme à ses aspirations, quand la mort de son frère le ramène à son devoir de riche propriétaire et le conduit à un mariage et à une vie qui ne sont pas faits pour lui. Le père de la petite Lise, libéré du bagne, se sacrifiera et y retournera pour sauver sa fille meurtrière. Lucien Bourrache, le spahi de gueule d'amour, est entraîné dans une odyssée amoureuse qu'il dépasse et finit par tuer l'objet de son amour. Le capitaine Laurent, dont la vie semble si solide entre son métier de sauveteur des bateaux à la dérive et son épouse, voit tout l'édifice qu'il a bâti soudain bouleversé par l'irruption d'une femme que lui donne la mer. Et Pierre Gautier, dans Le ciel est à vous, lorsque sa femme a disparu avec son avion et l'homme qui a tout perdu. Plus tard, le héros de l'étrange Madame X dira lui aussi, après la mort de son enfant et la découverte de l'identité d'Irène, « Je suis un homme qui a tout perdu ». Et dans tous les films, les choses n'arrivent pas sans que des signes aient été donnés, sans que des messages aient été délivrés. La figure du messager est une des plus répétitives du cinéma de Grémillon. C'est le vieux domestique venant chercher Maldon pendant la fête, c'est le marin de remorque qui trois fois vient chercher le capitaine Laurent, c'est le billet de Maurice remis à la mariée dans Pâte Blanche, c'est le garçon de bar du ciel est à vous, successivement messager de malheur, et messagers favorables. Il y a les messagers, il y a les signes, les présages. Pour ne prendre qu'un exemple, dans Le ciel est à vous, il y a les présages de superstition, ceux que la grand-mère voit dans la toux du petit, le bras cassé du père, le refus d'élever la jeune fille chez les sœurs. Et puis il y a d'autres signes, plus diffus, ceux que les personnages ne voient pas ou pas comme tels, les orphelins qui passent et repassent, faisant planer une menace discrète sur l'aventure en cours. Évoquant toutes ces manifestations du destin, Henri Hagel, dans sa thèse de doctorat, applique à Pierre Gautier, le héros du ciel est à vous, quand il est sans nouvelles de sa femme et qu'il est devenu l'homme qui a tout perdu, la phrase d'André Bazin à propos du jour se lève, « Cet univers de la vie quotidienne est devenu sans cesser d'être semblable à lui-même l'univers significatif des dieux. » Mireille Latil-Ledantec, dans un bel article de 1978 qu'elle a publié dans la revue Cinématographe, s'est opposée à cette comparaison en écartant chez Jean Grémillon l'idée du destin comme un fatum, comme une donnée objective et transcendante, pour voir plutôt dans les parcours des personnages le produit de mouvements psychologiques intérieurs. Ce qui me semble intéressant dans ce débat, plus que le fait de savoir qui a tort ou qui a raison, c'est qu'il ait lieu, manifestant la subtilité du cinéma de Grémillon, son refus d'un enchaînement mécanique des causes et des conséquences qui était largement la marque du cinéma de ses contemporains. Les deux auteurs sont-ils d'ailleurs tellement en contradiction ? Dans son texte, Mireille Latil-Ledantec estime que la liberté des personnages écrit leur destin, mais que cette écriture se fait sur une feuille non choisie qui est le monde concret où s'exercent leurs possibilités de choix, ce vaste monde étant celui des éléments que l'homme affronte dans son métier et dont il éprouve la force. Dès lors que la liberté des personnages s'écrit sur une feuille non choisie, est-on encore loin d'une surréalité ? Et dans son dernier livre consacré à Grémillon, synthèse complétée de ses travaux antérieurs, Henri Hagel conclut ce débat « C'est à un point de jonction subtil et quasi indéfinissable entre la subjectivité des protagonistes et l'objectivité probable d'une réalité impérieuse, disons d'une surréalité dont l'aspect se fait jour, que se déroule le dernier tiers de Remorque, Lumière d'été, Le ciel est à vous, Patte blanche. » Il me semble que cette idée de point de jonction subtil et quasi indéfinissable dit beaucoup du cinéma de Grémillon et de la place qui tient le sacré. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ce quasi indéfinissable ? En réalité, la seule question qui vaille est celle de l'écriture, tout le reste étant affaire de sensibilité. Et je crois qu'on peut sans exagération déceler de nombreux éléments de sacré, de liturgie, dans l'écriture de Grémillon. Le cinéaste a toujours eu le goût de la liturgie. Il s'en est ouvert, par exemple, lors de son séjour en Espagne, dans une lettre à ses parents, dans laquelle il évoque une célébration de l'Assomption de la Vierge. « J'ai vu ce que je voulais voir, la fête du 15 août à Elche, avec la représentation dans l'église du Vieux Mystère. C'était magnifique et extrêmement émouvant, notamment la montée de la Vierge entourée d'anges joués par des enfants. Après que les apôtres l'ont mise au tombeau, qui est construit à l'emplacement du lutrin, descend du haut de la voûte toute une machinerie qui porte quatre anges jouant du luth installés dans des feuillages d'or. Quand cette machinerie arrive dans le tombeau, on y installe la Vierge et le tout repart vers le ciel, accompagné par des chants admirables du XIIe siècle. Il est impossible de résister à des moments de joie populaire aussi fortes et je n'ai pu contenir mes larmes. Je suis sanctifié pour un bon nombre de semaines. » Il y a là un amour de la liturgie en tant que spectacle populaire, en tant qu'élément fédérateur manifestant le sentiment d'appartenance à une même communauté humaine. Et cette expérience prend place au moment où le cinéaste réalise en Espagne la Dolorosa, film explicitement religieux, qui fait partie de ceux qu'on laisse de côté en général lorsqu'on commente l'œuvre de Grémillon, et qui est peut-être plus intéressant qu'il y paraît au premier abord. Il est tiré d'une zarzuela, cette sorte d'opérette espagnole mêlant du chant sérieux et populaire, de la danse, des passages parlés, composé par José Serrano au début des années 1930. Raphaël aime Dolores, mais Dolores le trahit avec un autre homme, et Raphaël entre dans un couvent. Ayant des talents de peintre, il est chargé de reprendre le visage de la Madone d'une fresque de la chapelle, mais sa Madone a les traits de Dolores. Celle-ci, pendant ce temps, est abandonnée enceinte par l'homme pour qui elle a trahi Raphaël. Le destin tragique du couple est présenté parallèlement à celui de Perico et Nicasia, couple de paysans qui s'aiment d'un amour en toute simplicité. On trouve dans ce film, dont une bonne partie se déroule au sein du monastère où Raphaël est entré, de nombreuses séquences religieuses, des processions, un vrai goût du cinéaste pour filmer cette vie conventuelle et le lieu même de cette vie, mais l'ensemble ne peut être réduit à une imagerie sulpicienne que l'auteur aurait accepté de filmer parce qu'on ne lui confiait plus de travail en France. On y trouve les obsessions des chefs-d'œuvre du cinéaste. Tout le thème du film est celui du déchirement intérieur. Raphaël n'est entré en religion que par dépit, et transfère son amour pour Dolores dans une exaltation mystique qui lui fait donner à la Vierge les traits de son amour disparu. Il y a dans ce film une partie centrale dans laquelle la souffrance des deux protagonistes est traduite par Grémillon par des images d'un grand lyrisme représentant les amants en surimpression avec des paysages. Il y a l'image de Dolores abandonnée, gravissant une colline qui peut évoquer celle d'Ingrid Bergman dans Stromboli bien plus tard, et un lyrisme exacerbé qui confine au baroque avec des plans admirablement construits. Jamais plus la dimension liturgique ne se manifestera d'une manière aussi directe que dans ce film, qui demeure marginal dans la filmographie de Grémillon. Mais dans les autres, on trouve bien des éléments qui renvoient au sacré. Le sacré, ce sont d'abord des lieux dans lesquels il est possible de commémorer, de revivre la création du monde. Et à cet égard, bien des lieux choisis par Grémillon sont des lieux de cosmogonie. La mer, au premier chef, qui est le cadre aimé entre tous par le cinéaste, celui de gardien de fort, de remorque de l'amour d'une femme, mais aussi la terre en ébullition de lumière d'été, ce cadre désertique où jaillissent de toutes parts des explosions, des éboulis qui évoquent l'activité volcanique, les temps de formation du monde. À l'inverse, le canal de Briard, sur lequel ouvre Maldon, a tous les attributs de perfection du paradis terrestre et baigne dans une lumière irréelle. Au sein de ces espaces, d'autres espaces plus restreints évoquent des édifices religieux. L'auberge nommée l'Ange gardien est solitaire en haut de la montagne avec une sorte de clocher qui évoque une église, lieu de félicité apparente où vont pourtant commencer à s'affronter des forces très puissantes dont le combat prendra forme plus tard, dans le château de Patrice et sur le champ de construction du barrage, lieu prométhéen par excellence. Dans Remorque, la plage où marchent le capitaine Laurent et Catherine, aimée, est un lieu irréel que balaient de vastes masses nuageuses. Lorsque Catherine gravit les escaliers de la maison solitaire, le sommet de celle-ci évoque à nouveau une chapelle. Mais le sacré est peut-être surtout à rechercher dans une certaine qualité de dialogue, dans la présence de certains silences, dans les temps faibles des films de Grémillon, dans ces moments où il ne se passe rien. Pierre Caste, évoquant son ami, a parlé de tragique quotidien, expression qui nous renvoie au travail de Maurice Maeterlinck, qui, dans Le Trésor des Humbles, a consacré un chapitre au tragique quotidien. On sait que Grémillon était très sensible à l'œuvre de Maeterlinck et qu'il a longtemps voulu monter l'opéra de Debussy tiré de Péléas et Mélisande. Le dramaturge écrit « Il y a un tragique quotidien qui est bien plus réel, bien plus profond, bien plus conforme à notre être véritable que le tragique des grandes aventures. Il est facile de le sentir, mais il n'est pas aisé de le montrer parce que ce tragique essentiel n'est pas simplement matériel ou psychologique. Il ne s'agit plus ici de la lutte déterminée d'un être contre un être, de la lutte d'un désir contre un autre désir, ou de l'éternel combat de la passion et du devoir, il s'agirait plutôt de faire voir ce qu'il y a d'étonnant dans le fait seul de vivre. Il s'agirait plutôt de faire voir l'existence d'une âme en elle-même, au milieu d'une immensité qui n'est jamais inactive. Il s'agirait plutôt de faire entendre, par-dessus les dialogues ordinaires de la raison et des sentiments, le dialogue plus solennel et ininterrompu de l'être et de sa destinée. Il s'agirait plutôt de nous faire suivre les pas hésitants et douloureux d'un être qui s'approche ou s'éloigne de sa vérité, de sa beauté ou de son Dieu. » Ces quelques phrases ne s'appliquent-elles pas admirablement à quantité de séquences des films de Jean Grémillon ? Je pense évidemment à la séquence de la plage de Remorque et au dialogue entre Michel Morgan et Jean Gabin, séquence emblématique dans l'œuvre. Ça ne vous ennuie pas de vous promener comme ça avec un homme qui ne dit rien ? Non, quand on se tait, c'est qu'on a beaucoup de choses à se dire. On essaie de penser à ce que l'autre pense, c'est agréable. La toute première séquence de l'étrange Madame X, ce très beau moment de solitude d'un couple qui célèbre les trois premiers mois de son amour dans un stade désert, retrouve quelque chose de ce tragique quotidien qu'on ressent particulièrement, me semble-t-il, justement parce que la suite du film est au contraire assez empesée, qu'on n'y perçoit pas la manifestation du sacré, quand bien même un enfant va mourir au cours de la nuit de Noël, au moment où retentissent les cantiques traditionnels sur la naissance du Christ. Ce sont des choses qui n'est pas aisé d'expliciter, mais que l'on sent très bien, y compris lorsqu'elles nous déplaisent, comme le montre la réaction de Jacques Prévert, co-scénariste de Remorque. Sur l'une des versions du scénario qu'il a annoté, le texte du scénario précise « Poubennec descend, Marie se jette à son cou, il s'embrasse, Marie, Pierre, 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 Marie, Marie. » Et Prévert, malicieux et peu amateur de bondieuserie, note à côté de ces mots, il peut même ajouter « Je vous salue Marie, pleine de grâce, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni », ce qui plaira aux lecteurs de Ouest Éclair, nombreux à ce qui paraît dans la région. C'est par les voix, par les sons, que se manifeste cette dimension liturgique. On peut se demander si Grémillon n'a pas parfois choisi des acteurs pour leur timbre de voix, leur diction. Il y a quantité de dialogues qui, chez Grémillon, peuvent faire songer à des oraisons, à des prières. Un seul exemple, celui de M. Larcher, à la fin du Ciel est à vous, lorsque Pierre Gautier est accablé par sa belle-mère. « Je suis venu vous dire que moi, je vous ai compris. Pierre et Thérèse se sont d'abord aimés comme tout le monde. Ils ont voulu une maison, des enfants et ce bonheur simple dont ils avaient rêvé en écoutant cette chanson « Les lilas et les roses ». Mais madame, mais ils s'aimaient davantage. C'était autre chose qu'ils ont dû trouver pour s'exalter ensemble à cause de cette chanson qu'ils continuaient d'entendre. C'est pas l'ennui, c'est pas la lassitude qui les a entraînés dans cette aventure, mais un amour qui devenait tous les jours plus exigeant. L'expérience liturgique la plus forte est peut-être celle qu'il a fait lui-même en assurant le commentaire de ses documentaires, commentaires qui ne ressemblent en rien à ceux des documentaires habituels, non seulement par leur contenu, mais même par ses modalités d'énonciation, par une voix si particulière, une diction qui emporte le regardant, qui a quelque chose d'évidemment religieux. Que l'on songe au commentaire du 6 juin à l'aube, qui sur des images des ravages de la guerre nous transporte dans une méditation intérieure. Ici, il y avait une église, autour de l'église un cimetière, autour du cimetière un village, et plus loin, essayer de renaître, comme ceux-là qui, dans une austère et admirable grandeur, ont trouvé une raison de ne pas désespérer de tout. Évidemment, cette réflexion s'applique plus encore aux commentaires d'astrologie et d'alchimie, dans lesquels le cinéaste évoque précisément les choses cachées, la quête désespérée de l'homme pour dépasser sa condition. Quel regret pouvons-nous avoir que le troisième volet du triptyque, Amour, n'ait pas été conduit à son terme. Le sacré, chez Grémillon, s'écoute ainsi peut-être davantage qu'il ne se voit. Les hiérophanies, manifestations du sacré, sont peut-être plus auditives que visuelles, et à cet égard, la belle séquence du choix du piano dans « Le ciel est à vous » nous dit beaucoup. « Vous saisissez la différence ?» demande M. Larcher, le professeur de piano, à une grand-mère qui maugrait qu'on ne choisit pas un piano sur un arpège, et à un couple encore solidement ancré dans le réel qui n'entend rien. Il faudra que le ciel s'ouvre à eux pour qu'ils entendent quelque chose, et que la mère demande pardon à sa fille pour le piano vendu. Et puis, il y a les instants où le sacré éclate, où se révèle pleinement le sujet de toute l'œuvre de Grémillon, la tension entre la terre et le ciel, qui s'illustre par les forces contradictoires qui écartèlent ces personnages, qui les empêchent d'accéder à la paix. Ce thème est tout entier, celui du ciel est à vous, où s'affronte l'idée d'un bonheur paisible et quotidien, et celui d'un élan créateur, d'un mouvement vers l'infini. Cet affrontement trouve son apogée à la fin du film, lorsque Pierre est l'homme qui a tout perdu et qu'auprès de lui s'affrontent sa belle-mère et le professeur de piano de sa fille, l'une défendant l'idée d'un bonheur familial prudent et réfléchi, l'autre exaltant un amour qui allait au-delà de ce bonheur simple. La clé de cette relation entre ciel et terre, Grémillon la donne dans son dernier film documentaire « André Masson et les quatre éléments ». Si nous pouvions franchir l'apparence, passer au-delà des habitudes de l'œil humain grâce à l'œil de la caméra, cet arbre, issu de la terre qui croît dans l'air, ne serait-il qu'un végétal à tige épaisse? Les cimes des arbres sont aussi des racines buvant le ciel. Cette image-là, au cœur de l'œuvre de Masson, au cœur de celle de Grémillon, le cinéaste l'a puisée dans un poème de Rainer Maria Rilke, autre poète de l'invisible, de la fascination pour le monde primitif, et l'a noté en intégralité dans ce petit carnet de notes de 1957 que j'ai déjà cité. « Vu des anges, les cimes des arbres, peut-être, sont des racines buvant les cieux, et dans le ciel, les profondes racines d'un être leur semblent des faits silencieux. » Précisons que le réalisateur a mis entre parenthèses la subordonnée « vue des anges ». Le cinéma de Grémillon est l'histoire d'un renversement des perspectives, dans lequel les sommets se révèlent au sein des choses les plus terrestres, les plus terre-à-terre, les plus réelles. Ce renversement de perspective, c'est la prière de remorque qui l'illustre admirablement. Cette prière finale surgit de manière entièrement inattendue. Elle introduit une dimension surréelle qui tient davantage au dispositif retenu qu'au texte. Après tout, il n'est pas anormal que soit prononcée une prière dans une chambre mortuaire d'un port de Bretagne à la fin des années 30. Mais la prière qui devrait être murmurée, dont nous ne devrions entendre que des bribes à travers la porte de la chambre, éclate avec vigueur, emplit l'espace sonore, elle accompagne le capitaine Laurent qui retourne vers son navire, elle se mêle à la musique et aussi au bruit des machines, aux éléments déchaînés. Son texte rappelle des épisodes marquants de l'Ancien Testament dans lesquels Dieu a sauvé des individus perdus. La tonalité retenue, qui ressemble assez à celle de la danse des morts de Néguer et Claudel, qui date de la même époque, n'est pas une tonalité de lamentation, mais celle d'une voix impérieuse qui s'adresse à Yvonne, l'épouse morte, mais semble aussi destinée à son personnage principal qui remonte sur son bateau. « Il prie, il prie, il prie pour que tes yeux contemplent la vérité sans voile, dans la solitude, dans la solitude, dans la solitude. » Cette prière finale nous invite à réexaminer l'ensemble du film, à faire retour sur ce premier sauvetage au cours duquel on entendait la même musique sans pouvoir entendre des paroles, sans qu'une signification puisse lui être donnée. Il y a à la fin transfiguration du réel, expression que Grémillon avait employée à propos du « ciel est à vous » et du couple Gautier. Ce qui les anime, c'est un élan impétueux du cœur, et l'aviation ne sera là qu'un prétexte, la transfiguration de la réalité d'un milieu en une réalité supérieure. Si cette expérience du sacré demeure le plus souvent discrète dans les fictions de Grémillon, si elle s'intègre dans des œuvres le plus souvent fluides, elle semble soudain se manifester avec une bien plus grande évidence dans le dernier long métrage du cinéaste, tout comme elle est manifeste aussi dans son dernier documentaire consacré à André Masson. Dans sa thèse de doctorat, Henri Hagel a rapproché l'amour d'une femme des phrases d'André Gide dans sa préface à Palude. Et ce qui surtout m'intéresse, c'est ce qui j'y ai mis sans le savoir, cette part de l'inconscient que je voudrais appeler la part de Dieu. Peut-être Grémillon a-t-il pris conscience a posteriori de cette situation, lui qui, comme pour s'en excuser, déclara à Bernard Charder qu'il interrogeait pour positif « Il me faut répondre à un grief qu'on a déjà fait au film, un enterrement, trop de scènes religieuses, c'est que Ouessant est une île de veuves, une île où pèse le perpétuel poids de la mort, qui est d'ailleurs une dimension supplémentaire, il importait de le faire peser sur le destin des enfants. » Bien sûr, il y a une ambiance, une atmosphère religieuse, peut-être propre à Ouessant dans les années 50, il me semble qu'il y a quand même beaucoup plus dans ce film. À l'origine, il devait s'ouvrir par des plans de la mer déchaînée à proximité du phare, dans une introduction un peu comparable à celle de Remorque. Finalement, le générique se déroule sur un fond gris, parfaitement neutre, peut-être pour des raisons financières. En revanche, par la suite, l'île, nouvel espace de cosmogonie, est très présente, lieu sauvage, découpé, battu par les vents avec son phare. Et peu de temps après l'arrivée de Marie, celle-ci assiste par une fenêtre à une procession de proëlas. La proëla était un rite propre à Ouessant, par lequel on célébrait l'enterrement de ceux dont la mère n'avait pas rendu les corps. Le corps du défunt était représenté par une petite croix posée sur des serviettes. Après une veillée, on se rendait en procession à l'église où l'on célébrait l'enterrement comme si le corps était présent. Il s'agissait en quelque sorte d'un mime du rite de l'enterrement en l'absence même de corps à enterrer. La vision impressionne manifestement beaucoup Marie, la jeune médecin à peine arrivée sur l'île. Mais l'essentiel n'est pas dans cette atmosphère, il est bien dans l'aventure de Marie elle-même, qu'à bien regarder dans le film, il est difficile de réduire au choix difficile entre vie de couple et exercice d'un métier. Le métier dans l'œuvre de Grémillon est à la fois le quotidien de l'homme, ce qu'il occupe, ce qu'il y a de plus pratique, et dans le même temps il est beaucoup plus que cela et revêt une dimension quasi mystique. Les métiers qu'il présente dans plusieurs de ses films ne sont déjà pas des métiers ordinaires. Gardien de phare, remorqueur de bateaux en perdition, médecin à Ouessant sont des métiers qui mettent en jeu la vie de l'homme, des métiers où il est question de sauver l'autre. Sauver le monde, c'est le bon boulot, disait un personnage au capitaine Laurent dans Remorque. Et les personnages de Grémillon ont une manière d'exercer leur métier qu'il assimile à une vocation. L'assimilation métier-vocation est une banalité, employée à tout bout de champ. Chez Grémillon, il faut entendre vocation dans son sens originel, celui d'appel. Et cet appel, par la force qu'il revêt, par son caractère impérieux, par l'engagement sans limite qu'il implique, s'apparente à la vocation religieuse. Cette conception du métier apparaît explicitement dans l'amour d'une femme. À aucun moment dans ce film, la vocation de Marie, comme celle de Mademoiselle Leblanc, n'apparaît véritablement compatible avec une vie de couple heureuse. Si André semble exiger de Marie qu'elle abandonne entièrement son métier, tandis qu'elle voudrait au moins conserver une petite clientèle, ces dialogues entre les deux amants retracent mal l'importance du choix qui s'offre à Marie. Lorsque, à la fin du film, survient chez Marie la nouvelle institutrice, qui, elle, représente le compromis possible, la conjugaison du métier et de la vie de couple. Elle s'occupera des filles et son mari des garçons. Il est manifeste que son engagement est sans rapport aucun avec celui de Marie ou de Mademoiselle Leblanc. Elle s'intéresse surtout à la décoration de son futur intérieur. Le travail dans l'amour d'une femme est bien autre chose qu'un travail. Citons Rilke, que Grémillon aimait et qui, dans son testament, écrit « Le travail est lui-même amour, infiniment plus d'amour que l'individu n'en peut susciter en autrui. Il est toutes les espèces d'amour. » Mademoiselle Leblanc a tout abandonné à son métier. Elle invite Marie à ce même chemin qui ne s'accommode pas de l'ordinaire. Et l'on glisse ici de la vocation au sacerdoce, davantage au sacerdoce ministériel, celui des prêtres, qu'au sacerdoce commun, celui des fidèles. Dans son livre consacré à Remorque, Philippe Roger a décelé dans le nom du capitaine Laurent un autre nom révélé par la cabale phonétique. Laurent, O-R-A-N-T, celui qui prie. Et de fait, ce nom de Laurent n'avait sans doute rien de hasardeux, puisque Grémillon a conservé la plupart des autres noms du roman de Roger Vercel dans Remorque, mais qu'il a transformé le capitaine Renaud en capitaine Laurent. Ici, il ne se cache pas derrière la cabale. Si André Lorenzi renvoie à André Laurent, Marie est Marie prieur, celle qui prie. Dans certaines congrégations religieuses, le prieur est à la tête de l'abbaye ou de la congrégation elle-même. Et lorsqu'elle exerce son art, ses gestes, ses attitudes semblent eux aussi rituels et liturgiques. Lorsque Marie sauve la petite Aline au cours d'une nuit, Grémillon écrit dans le scénario, Marie fixe l'enfant comme pour lui transférer un peu de sa propre vie. Le destin de Marie se joue dans la partie centrale du film. Après la séquence au cours de laquelle Mademoiselle Leblanc a reproché à Marie sa relation avec André, mettant en avant une vocation plus haute, plus essentielle, celle qui l'a conduite à donner sa vie aux enfants des autres, la séquence suivante est un office religieux, suivi par la caméra pendant quelques instants. Nous assistons au Sanctus, puis au moment précis de la consécration des offrandes, alors que les fidèles sont agenouillés, baissent la tête après la consécration du pain, la commémoration de la scène, Mademoiselle Leblanc, elle, se relève, prise d'un malaise, et sort en trébuchant pour aller s'effondrer et mourir un peu plus loin sur la place non loin du cimetière. Cette mort inexpliquée, jamais annoncée, brutale, est en elle-même extraordinaire, mais le moment où elle prend place rattache la vocation de Mademoiselle Leblanc à la passion au sens biblique du terme. Pendant ce temps, Marie est avec André pour la première de ces scènes ouvertes que nous avons vues ce matin, au cours desquelles les deux amants évoquent le métier, ses conséquences sur la vie de couple qu'ils envisagent. La scène qui voit s'exprimer pour la première fois le désaccord entre Marie et André se termine par le glas qui sonne et prend place au milieu de ruines qu'Henri Hagel qualifie de paysage peut-être un peu trop symbolique et en tout cas fâcheusement théâtral. Certes, c'est bien l'impression que dégage la séquence, mais de quoi au juste ces ruines sont-elles un peu trop symboliques? Le critique ne nous l'indique pas. Annonce-t-elle déjà l'impossibilité pour Marie et André de devenir un couple? Ces ruines d'un édifice religieux ne peuvent-elles être perçues comme symboliques de la disparition d'une forme de sacré, d'un espace à reconstruire, espace qui peut pour l'avenir être celui du couple ou celui du métier qui donne sens à la vie humaine? Alors Marie rentre, traumatisée de n'avoir pas été là quand Mademoiselle Leblanc a eu besoin d'elle, et survient l'une des séquences les plus étonnantes de l'œuvre de Jean Grémillon, celle de l'enterrement de Mademoiselle Leblanc. Ici nous revient le souvenir de la prière finale de Remorque. L'assistance est nombreuse mais comme indifférente, on parle du temps. S'élève alors le psaume, le De Profundis, prononcé à mi-voix par le prêtre dans la cour de l'école. Cette voix qui psalmodie, c'est celle de Jean Grémillon qui pour la première fois prête sa voix à l'un de ses acteurs dans une fiction. Ce De Profundis, prononcé recto tono, se mêle à un vent léger encore qui accompagne cette première partie de la cérémonie. Puis au cimetière, la psalmodie est remplacée par l'oraison, la voix du prêtre se fait plus forte, plus mélodieuse aussi, pleine de nuances, tandis que le vent, cette fois plus fort, siffle de concert. La séquence est brève, remplie d'un lyrisme que Grémillon a rarement laissé s'exprimer aussi librement, lyrisme qui se manifeste également dans le texte. Cette raison de vivre, cette joie d'être épouse et d'être mère, vous voulez être refusée, Germaine Leblanc, pour consacrer votre existence à des enfants qui n'étaient pas les vôtres. Ces enfants que vous aimiez n'étaient jamais les mêmes. Combien avez-vous dû souffrir de cette humaine indifférence ? Vous avez choisi la porte étroite, le chemin aride, interminable, où les saints vont en solitaire. Mais ce chemin de ronces n'est pas le seul qui mène au ciel. Il en est d'autres de fleurs et de fruits que le chrétien peut cueillir en marchant. Ces fleurs et ces fruits de la terre, vous pouvez en user tout simplement, mes frères. C'est Dieu qui vous les offre. Si dans la plaine immense vous êtes le grain de blé, n'enviez pas le peuplier solitaire qui d'un élan désespéré s'en va toucher le ciel. Restez le grain de blé parmi les millions d'autres. Restez le grain de vie. On trouve ici d'authentiques références bibliques, la porte étroite, le grain de blé, et pourtant ce texte prononcé par Jean Grémillon lui-même, ce qui ne peut être anodin, nous ramène à l'hérétique évoquée par Jacques Brioin dans son témoignage sur le cinéaste, quand l'évangile de Matthieu invite à choisir la porte étroite, justement, entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Le prêtre de l'amour d'une femme, lui, ne pousse pas vers cette porte étroite, invitant les fidèles à demeurer le grain de blé dans la plaine immense. Notons que dans ce film, Marie est très souvent filmée dans l'embrasure de portes et de fenêtres qui traduisent sa situation incertaine, dedans et dehors, et font peut-être écho à cette porte étroite. On pense à Gide, qui écrivit précisément un roman qui s'appelle « La porte étroite », roman qui donna lieu à des interprétations diverses. Il y a dans le destin de Marie Prieur quelque chose de celui d'Alissa, la jeune fille dont le mysticisme la conduisait à tenir l'amour à l'écart. « Que peut préférer l'âme au bonheur ?» lui demandait Jérôme. Elle répondait « La sainteté ». Il est intriguant cet appel à demeurer le grain de blé parmi les millions d'autres dans l'œuvre d'un cinéaste dont tous les personnages sont marqués par ce déchirement entre des forces contradictoires, entre l'attraction terrestre qui pousse à la vie ordinaire de tout un chacun et une attirance non moins forte vers des sommets inconnus. Et Grémillon lui-même, en tant qu'artiste, en tant que cinéaste, a bien choisi la porte étroite, se sentant porteur d'une responsabilité très lourde qui lui interdisait la médiocrité ou l'originalité tapageuse, comme en témoigne le texte d'une de ses conférences prononcées devant les élèves de l'IDEC. La nature du cinéma, comme celle de l'architecture, n'est pas de limiter son audience. Sa fonction, sa responsabilité est d'assumer cette immense charge de nourrir les foules considérables dont, en bien des cas, il est la seule alimentation culturelle. Il n'est donc pas impossible de ramener le problème à la conscience que prend ou refuse de prendre un réalisateur de la fonction de constat dont son œuvre sera amenée à être l'instrument. Nous parlions à l'instant des divines contraintes valériennes, peut-être sont-elles là, dans cette confrontation avec les mille aspects de la réalité, dans l'obligation de trouver pour chacun le mode de récit le plus conforme et le plus fidèle à la nature secrète du phénomène qu'il faut décrire. Gide a écrit en variation sur le thème « Si le grain ne meurt » de fort belles pages sur l'art classique qui trouve dans la renonciation apparente au prestige de l'originalité son individualité la plus valable. Et commentant la destinée de son ami, Pierre Caste a recours lui aussi à la métaphore évangélique. Comme celui qui voulait sauver sa vie et pour cela la perdait, tandis que celui qui n'avait pas premièrement cherché son salut le trouvait, Jean Grémillon n'a pas voulu s'évader de son temps pour lui survivre et ainsi périr dans le Parnasse, mais il a souhaité donner des problèmes, des conflits et des hommes de son temps un reflet valable. Il faut encore parler de ce qui suit la séquence de l'enterrement. Marie rentre chez elle et trouve les deux enfants qui ont quitté le cimetière pour aller au secours du mouton Nénette, tombé dans les rochers à cause du vent. Marie leur fait le reproche amer de leur ingratitude à l'égard de Mademoiselle Leblanc. Mais l'attitude de ces enfants n'est-elle pas la plus normale ? Protégés par Mademoiselle Leblanc, ils sont eux les protecteurs d'un mouton qu'ils considèrent sous leur responsabilité. Le troupeau, les agneaux, symboles bibliques, sont très présents dans l'amour d'une femme, et Grémillon n'a pas tourné une séquence de séparation du troupeau qu'il avait écrite. À certains moments de la saison, chaque propriétaire récupère ses brebis et les agneaux suivent leur mère, déterminant ainsi leur propriétaire. La brebis Nénette sortait du troupeau solitaire, sans agneau. Finalement, Marie restera à Ouessant. Ce que je trouve très beau ici, ce qui me paraît aller à l'encontre des thèses qui voudraient limiter le sens de ce qui s'est passé à des déterminismes psychologiques et sociaux, c'est que cette fin n'est pas celle qu'a initialement écrite Grémillon. Lorsqu'on consulte à la Bibliothèque nationale les archives du cinéaste, on constate que l'histoire a évolué avant d'atteindre son stade d'écriture définitif. L'histoire qu'avait d'abord imaginée Grémillon était un peu différente. Marie était liée à François, son camarade de l'université. Mais les parents de François ne voulaient pas qu'il se marie avant d'être vraiment installé, et sans doute préférait-il qu'il oublie Marie. Celle-ci, sans fortune, pour racheter une clientèle, s'en allait succéder à un vieil oncle, à Ouessant, où elle rencontrait André, un biologiste. Marie était rejetée par une population superstitieuse, surtout après la mort de Mademoiselle Leblanc, dont elle était tenue pour responsable. Elle sauvait finalement un marin, et tombait elle-même très malade, ce qui renversait l'opinion à son égard. Elle était sauvée par un sérum fabriqué par André, qui faisait alors le choix de disparaître de sa vie. Et dans une première version, François et Marie se retrouvaient alors. Et Grémillon écrit « Ainsi, le salut qui leur était refusé dans la facilité, c'est dans la difficulté, dans le plus grand don d'eux-mêmes qu'ils le trouveront. » Et dans une seconde version, Marie restait dans l'île, mais sans François. « François est dépassé par Marie, écrit Grémillon. Il n'y a pas de place pour deux dans une telle vie. Nous l'avons compris. » François ne restera pas, Marie ne partira pas, et ce sera pour elle le nouveau déchirement de la solitude. Mais la solitude n'est fatale qu'au cœur faible, singulière autour des choses, mystérieux accomplissement du destin. Une toute jeune fille vient de débarquer dans l'île, la nouvelle institutrice qui remplacera Mademoiselle Leblanc et qui vient rendre visite au médecin, tout comme Marie rendit visite à l'institutrice. Le prix de la vie n'est pas dans la facilité, c'est dans un plus grand don de soi qu'on le trouve. C'est ce que dit Marie sur le visage de qui nous lisons toujours une inaltérable confiance. Et finalement, la fin du film est encore différente de ces deux possibilités. Marie reste bien à Ouessant, mais ce que nous lisons sur son visage, tandis que parle la nouvelle institutrice de son futur petit bonheur, est bien plus une profonde tristesse, une insondable inquiétude qu'une inaltérable confiance. Le destin de Marie, qui sera le même que celui de Mademoiselle Leblanc, est bien ce chemin de sainteté, toute laïque, puisqu'il s'agit de la vocation de médecin, mais vocation aussi exigeante que celle du sacerdoce, vocation de sacrifice total de soi. Lors de la sortie du film, certains critiques ont raillé les revirements successifs de Marie, pointant des faiblesses de scénario. Au regard de ce don total qu'elle s'apprête à faire, ces revirements sont au contraire cohérents. Lorsqu'après avoir constaté l'ingratitude des enfants envers Mademoiselle Leblanc, Marie se réfugie auprès d'André en lui demandant de l'emmener, Il y a dans la soudaineté de ce moment quelque chose de l'instant où le Christ au jardin des Oliviers est pris par l'angoisse. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. » C'est encore une métaphore religieuse qu'emploie Grémillon pour évoquer l'impossibilité de l'amour entre Marie et André lorsqu'il parle de son film dans la revue Positif. Ces deux êtres se plaisaient, et pas seulement sur le plan physique, mais ils ne pouvaient pas s'apporter le salut l'un à l'autre. Voilà. On dit parfois que les adaptations d'œuvres littéraires au cinéma appauvrissent les œuvres en ce que la traduction des mots par les images vient en borner le sens et les possibilités. Jean Grémillon a tenté de faire de l'amour d'une femme un roman. Il n'y est pas parvenu et a renoncé. Et dans des lettres, il a évoqué ce projet, et dans l'une d'elles, il constate « Quand je tourne, une seconde nature agit pour moi, et bien lunée ou mal disposée, le métier acquis fonctionne tout seul. Dans ce qui m'occupe actuellement, ce n'est pas le cas. » Et dans une autre, il indique « Je procède à un travail d'analyse profonde, j'ai déjà établi une trentaine de fiches, creusant, fouillant chaque personnage. Pour l'instant, ils répondent tous bien. » Sauf ce foutu André, qui est décidément de la pâte à pas grand-chose. J'ai donné à Marie, que j'aime, un vrai passé. De tout ceci, il ne restera à l'écriture que des allusions, de subtils reflets, mais je sens qu'il faut que j'opère ainsi pour le moment. Je voudrais faire discret et solide, profond et concis. C'est un mystérieux jeu d'emboîtage qui consiste à exprimer tout ce qui se passe entre les séquences du film. On peut penser que pour Grémillon, c'est l'opération de transformation en simples mots de ces images et de ces sons aux significations complexes, riches, jamais univoques, qui auraient été un appauvrissement. Quant au constat qu'il fait sur la difficulté de caractériser André, il me semble qu'il vient renforcer l'idée que cette histoire est celle de Marie, de l'appel, du salut, André étant seulement catalyseur ou témoin, mais pas véritablement acteur du drame intérieur qui se joue. Il me faut maintenant conclure, et je reprendrai encore une fois ce petit cahier de notes de 1957, où Grémillon écrit « Il s'agit de retrouver derrière les dieux à qui on a assigné un fragment de l'univers, la rêverie primitive, naturelle, qui a engendré ce Dieu. » Et dans les notes préparatoires au documentaire sur André Masson, les deux hommes ont un dialogue préalable, retranscrit par le cinéaste. À la fin de l'échange, les derniers propos d'André Masson sont les suivants. « Je voudrais que, quoi que je fasse, on ait l'impression d'être devant une cosmogonie. Même dans les natures mortes, j'ai toujours voulu qu'il y ait un rappel de l'univers. Mon matérialisme mystique n'est jamais à la recherche d'un au-delà. Le mot mystique semble contradictoire, mais je n'en trouve pas d'autre. Le vrai artiste est celui qui charme ce qui est sauvage. » Il y a ici quelque chose aussi du cinéma de Jean Grémillon, cinéaste sans doute incroyant en un dieu ou en des dieux, mais cinéaste religieux, cinéaste du sacré, recherchant ce sacré en l'homme, dans le couple, dans le travail, dans le rapport avec les éléments. Et selon un paradoxe qui n'est qu'apparent, Grémillon est un cinéaste du sacré, non pas bien que réaliste, mais parce qu'il est un cinéaste réaliste. Et on comprend mieux ce paradoxe en méditant l'une des définitions du réalisme qu'il a pu donner. Où commence le réalisme ? Peut-être dans une certaine familiarité avec les représentations tenues pour sacrées et de ce fait sans contact immédiat, j'allais dire quotidien, avec l'homme. Pensez à ces statues de la Vierge dont les admirables images ornaient les cathédrales ou les oratoires. Le réalisme du sentiment commença lorsqu'on rencontra ces images au coin des rues, abritées en de petites niches, enchâssées dans le mur des maisons qu'elles protégeaient. Créer un lien de famille en se mêlant à l'humanité commune, parler cœur à cœur, ce qui brise la violence pour en grandir l'intensité, ce qui force les accents les plus violents à s'envelopper d'harmonie. Il ne s'agit pas seulement des apparences de la vie. Je vous remercie.